Bonjour, je m'appelle Léa Martin et je suis en crise existentielle. Crise existentielle, c'est une plateforme sonore où j'écoute, j'explore et je partage. Je suis en train de venir progressivement à bout de ma fin de session qui finit plus de finir, donc je peux me remettre à mon hobby de baladeuse. Ça fait déjà plusieurs jours, si c'est pas plusieurs semaines, je compte plus les jours, je sais pas quelle date on est, depuis que j'ai mis en onde ma première non-émission de crise existentielle et j'ai reçu plusieurs commentaires de mes auditeurs et auditrices, c'est-à-dire mes proches, parce que je suis pas encore famous. Puis j'ai comme envie d'adresser les commentaires que j'ai reçus parce que, bien évidemment, je ressens le besoin de me justifier considérant que je trouve pas mon contenu si pertinent que ça. J'ai reçu un commentaire très touchant de ma mère qui me disait qu'elle me trouvait très inspirante, que mon balado lui avait donné envie de se remettre à créer, donc tant mieux, hein? J'ai aussi un seul auditeur, mais quand même, mieux que zéro, qui m'a confirmé que Marie-Hélène avait une voix très radiophonique. Donc Marie-Hélène, si t'es à l'écoute, tu es la bienvenue sur mon balado dès que je réfléchis à une façon de comment balader à distance. Ce même auditeur m'a aussi dit que le titre du podcast était un peu kitsch. Écoute, j'en conviens. Je l'ai choisi parce que je me trouvais drôle. C'est un peu satirique dans le sens où j'aurais pas de raison de me starter un balado si j'étais pas en crise existentielle. Puis aussi, je pense que c'est un bon reflet de comment beaucoup de personnes se sentent en ce moment, considérant le confinement, la COVID, etc., etc. Donc, maintenant que mes justifications sont faites, je me sens beaucoup mieux, un énorme poids de retirer de sur mes épaules. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'invité à mon émission, mais je suis en train de réfléchir à comment je vais procéder. Pour ça, j'ai déjà une belle liste de collaboratrices et collaborateurs pour vous, donc ça risque d'être intéressant dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, comme je n'ai pas d'invité, ben je vais encore une fois parler de mon propre travail. Au cégep, on m'a appris que si personne voulait diffuser mon travail, j'avais juste à le faire moi-même, donc voici exactement ce que je fais. Avant de me lancer dans la grosse théorie sale, j'ai décidé de commencer la non-émission en pigeant une des fortunes qui provient de mes biscuits. Si vous avez été à l'écoute de ma dernière non-émission, vous savez que je me nourris presque exclusivement de biscuits de la fortune. Et donc, comme je suis incapable de jeter quoi que ce soit qui a une esthétique un peu intéressante, ben je les ai conservés dans un pot. J'ai décidé que j'allais commencer chaque émission en pigeant une fortune. Alors, voici. Vous êtes aimable et honnête. Merci, Fortune. Merci. Sur cette note positive et motivante, je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre qui a un titre changeant. En fait, l'œuvre a été développée dans le cadre d'un cours, c'était un projet de mi-session que j'ai fait en collaboration avec Naomi C. Tapia. Naomi, si t'es à l'écoute, je te passe le bonjour! Puis bon, celles et ceux qui étudient en art savent que les projets de mi-session sont parfois créés à la presse et un petit peu botchés. Donc c'est un petit peu le cas de cette œuvre-là. On l'a conçu et réalisé un petit peu à la presse, donc j'avais complètement oublié cette œuvre-là. Puis dernièrement, en faisant le ménage de mon disque dur externe, parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre en temps de pandémie, n'est-ce pas? Et je suis retombée sur l'audio de cette œuvre-là, puis je me suis dit « Ah, finalement, c'est bon, tu sais. » Malheureusement, j'ai pas accès à la portion que Naomi avait réalisée, mais je pense que juste la partie que moi j'avais faite, c'est quand même complet comme œuvre. J'ai donc décidé de vous présenter seulement cette portion-là comme travail autosuffisant, puis ça se nomme « Médiation intégrée ». Je vous en fais jouer un extrait, puis j'en discute ensuite.
J'ai l'impression que l'impression qu'il y a comme un double, double médium, là, parce qu'on est comme...
On voit les accueils.
En fait, plus que ça, parce que...
Je vois son chat, Justine.
Je m'avance, je vais analyser l'œuf. Je pars, je
me dis... Elle bouge la tête comme une loupe.
Oh my God. Tu peux arrêter de cligner autant des yeux.
Ils sont bizarres à cause qu'ils sont comme... C'est comme une vidéo mise en accéléré.
Merci.
Mais c'est vraiment bizarre quand tu regardes les yeux, en fait. Ça fait quand même peur. Sinon, on voit qu'il est habillé chic.
Voyons voir ça.
C'est quand même spécial, là. Parce que
à quoi ressemble, là?
Il y a des collants avec des souliers chic, on dirait.
Puis du rouge à lèvres. Clairement, on a une vision différente.
Puis, ses cheveux sont comme essayés d'être bien placés.
Aussitôt qu'on s'approche de l'œuvre, je pense que la proximité dans l'œuvre.
La cire.
Ça vient de
la sculpture, on dirait qu'il y a comme du sang. Spécial, parce qu'en plus, on dirait qu'il y a comme tout ça qui est projeté sur le mur. C'est assez spécial.
Ah, c'est une fucking bougie.
Ouais.
Oh,
fait qu'on a une mise en abîme.
C'est moi qui s'est pas fait exprès.
On a une mise en abîme. Quelque chose d'autre.
Pourquoi c'est aussi mal cadré?
Mais on dirait que ça fit parce qu'il y a comme la sculpture aussi. Quand tu regardes proche, on voit la
cire.
Dans une sculpture qui était probablement une moulure de sa propre bouche.
C'est la sculpture qui est dans la vidéo aussi.
Something happening.
En fait, dans la vidéo, tu vois que c'est.
T'as l'air de t'ennuyer autant qu'on sur la vidéo.
Elle allume quelque chose, que c'est une bougie. Puis en fait, on voit qu'ici, c'est la sculpture qui était dans la bougie.
Tu clignes beaucoup trop souvent,
désolé. Mais je sais pourquoi elle a mis du sang, genre, comme un fil lugubre.
L'œuvre est dans un. Ah, il y a un chat!
Nouveau. D'accord.
C'est vraiment cool parce que j'ai comme plein d'impressions en même temps, puis j'ai toujours tendance à vouloir écrire ce que je vois puis ce que je ressens quand je vois une œuvre. Fait que là, de parler ce.
Est-ce que c'est toi qui l'as fait en plein?
De parler à un micro, ça me fait comme l'impression de
participer aussi. L'image est comme plus claire, ça
commenter en direct,
projette avec l'ombre du visage.
Ça fait drôle parce que c'est que je deviens de plus en plus à l'aise personnellement. Là, je vais arrêter de parler de mon expérience parce que.
Plus là, avec la projection de l'image.
J'aimerais mieux parler, me concentrer sur.
De la.
Tu vas passer un petit coup de peinture sur ta table.
L'image du sang qui est projetée sur la même sculpture.
Donc, c'était seulement un extrait, mais si vous voulez écouter l'enregistrement complet, il est disponible sur mon compte SoundCloud sous le titre Médiation intégrée. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas personnellement, je fais de la médiation dans un musée. Puis à chaque automne, on a des formations super intéressantes sur comment rendre le musée plus inclusif puis comment améliorer nos tactiques de médiation pour atteindre des publics différents. Puis cette année, on a eu plusieurs formations sur comment rendre les œuvres accessibles à un public malvoyant. Ces formations-là ont beaucoup habité mon imaginaire puis je me suis questionnée longuement sur... Les méthodes, non seulement en tant que médiatrice, mais en tant que créatrice aussi, de rendre une œuvre accessible par d'autres sens que par la vue. Donc c'est un peu de cet endroit-là qu'est née mon espèce d'obsession pour tout ce qui est sonore. Puis dans le cadre de ces formations-là, on prend beaucoup de temps pour réfléchir sur la médiation elle-même, puis pour discuter en équipe. Puis je me rappelle qu'on a discuté du travail de médiation comme un travail de guide, dans le sens où c'est nous qui dirigeons le regard ou la lecture des œuvres pour les spectatrices et spectateurs. Les médiatrices et médiateurs ont donc un impact direct sur, par exemple, le nombre de temps qu'une personne passe devant une œuvre ou le type de réflexion qui vont être alimentées. Donc j'ai cogité là-dessus pas mal. Puis j'ai aussi réfléchi au fait que la plupart de mes collègues, en plus d'être travailleurs et travailleuses culturelles, ont aussi des pratiques artistiques. Puis je me disais que ça pourrait être intéressant d'intégrer la médiation elle-même à travers l'œuvre, ou même simplement de poser la question « Est-ce que la médiation pourrait être une œuvre en soi? » Si on y réfléchit dans une logique d'art relationnel, je pense que ça a tout à fait sa place. Ou même simplement dans un contexte où l'artiste a envie de mettre les spectateurs, spectatrices au centre de la réception de l'œuvre, ça fonctionne. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait possible de faire une œuvre en utilisant la perception des spectateurs, spectatrices face à une autre œuvre? Fait que c'est un peu une espèce de mise en abîme de l'artiste ou de la médiatrice. Puis c'était nourri par des questionnements sur les perceptions, l'accessibilité à l'art, les modes de diffusion, etc. Concrètement, la manière que cette œuvre-là s'est élaborée, c'est qu'on a installé une œuvre dans un local désert de l'UQAM, là où il n'y avait personne. Puis on a demandé à des spectateurs, spectatrices qui ont un rapport différent avec l'art, donc autant des gens qui mettent rarement les pieds dans des musées que des gens qui étudient en histoire de l'art, par exemple, d'observer l'œuvre pendant 10 minutes avec un micro et de dire à voix haute tout ce qui leur passait par la tête. Donc, ça se voulait comme un moyen d'enregistrer la progression de la pensée du spectateur ou de la spectatrice en fonction du nombre de temps passé devant l'œuvre. Donc, c'était vraiment pour voir le développement du discours, comment ça changeait, comment la perception avançait puis se développait en fonction du temps. Ensuite, on a pris tous les enregistrements puis on a fait un montage. Donc, c'était vraiment intéressant comme travail de mettre les différents discours en relation. Puis on a porté une attention particulière aux ressemblances entre les discours, puis on a essayé de mettre l'accent sur certaines choses. Donc à certains moments, il y a des gens qui parlent plus, on monte le son, des gens qui parlent moins, des personnes qui disent presque la même chose en même temps. Donc on a fait un espèce de travail de sculpture sonore presque. C'était vraiment d'utiliser ici le son, mais aussi les concepts comme matérialité. L'œuvre que les participants et participantes sont en train d'observer, c'est une œuvre qui s'appelle Salomé, la langue en feu. C'est une projection vidéo sur une sculpture que j'ai faite moi-même, encore une fois, de l'autopromotion. Puis c'est important pour nous de choisir une œuvre sur laquelle il n'y avait pas de discours préexistant ou une œuvre qui ne faisait pas partie de l'imaginaire collectif pour vraiment laisser libre cours au discours des participants-participantes, finalement. Bon, c'est sûr que le résultat est pas aussi impartial que ce qu'on aurait espéré, considérant que l'œuvre a été réalisée par moi et que les participants-participantes étaient principalement mes amis. Donc c'est sûr que ça vient modifier un peu le discours. Mais en général, on était vraiment satisfaites du résultat puis de la diversité des commentaires reçus. La partie que Naomi a effectuée, finalement, c'est un montage sonore de 3 autres personnes. Mais je pense que ça crée un petit peu plus un espèce de chaos sonore que quand il y a moins d'enregistrements en même temps. C'était vraiment une œuvre qui cherchait à étudier un peu à la manière d'un scientifique les modes de réception d'une œuvre chez le public. Je pense que dans le cadre de ce projet-là, l'utilisation de l'audio comme médium est vraiment justifiée parce que non seulement ça permet d'avoir un rapport vraiment plus intime aux participants et participantes, mais ça permet aussi d'enregistrer dans l'immédiat le fil de leur pensée, qu'il n'y a pas de nécessité de traduire par l'écrit. Je pourrais parler de cette œuvre-là encore longtemps, mais je me suis un peu donné comme mandat de faire des émissions qui sont assez courtes et pas trop lourdes, donc je vais arrêter ici. Avant de conclure l'émission, j'ai envie de faire un petit retour sur la recette de galettes de patates douces de Ricardo. J'ai enfin réussi à mettre les mains sur du tofu, puis j'ai pu faire la recette. Waouh, la gang! La belle recette, vous autres! Ricardo, il dit galettes, mais moi, ça m'a fait comme des espèces de burgers végés. Si tu fais les galettes plus épaisses, c'était exquis, je vous le conseille fortement. Sur ce commentaire de ma tante, je vais conclure l'émission. Le balado d'aujourd'hui était un petit peu moins funé que les versions d'habitude, mais j'adorerais avoir vos commentaires sur ce que vous en pensez, l'œuvre. Aimeriez-vous participer à des projets semblables dans le futur? Est-ce que vous aimez ça quand je parle de trucs théoriques-ish? Est-ce que vous aimez mieux quand je raconte des choses comiques sur les épiceries? Peu importe le commentaire, je suis intéressée, faites-moi savoir. Si c'est pas assez clair déjà, je suis en manque crucial de contact humain. Donc s'il vous plaît, écrivez-moi. Vous allez pouvoir trouver dans la description du balado le lien YouTube vers la vidéo de Salomé, la langue en feu. Comme ça, vous pourrez avoir un petit aperçu de ce que les participants-participantes décrivent dans mes tiers sont intégrés. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. C'était Léa Martin pour Crise existentielle. Et je vous laisse sur ces quelques questions qui me ravagent le cerveau depuis des mois. L'acte de médiation peut-il être considéré comme une œuvre en soi? En tant qu'artiste, est-ce que c'est notre devoir d'intégrer une portion de médiation à même nos œuvres? Et pourquoi Ricardo met du bouillon de poulet dans chacune de ses recettes? Tant de questions, peu de réponses. Chers auditeurs, je vous dis merci et à la prochaine!